C'est notre bureau d'ailleurs en 2015 qui a entamé un travail statistique annuel sur les décès en prison et qui a rendu ces chiffres publics, demandant aux autorités administratives qu'elles mènent des enquêtes sur chaque décès se produisant en prison, ce qui n'était pas le cas auparavant. On ne faisait que communiquer officiellement les chiffres auprès du procureur. Dès 2006, des enquêtes administratives ont été menées chaque fois qu'il y a eu un décès. Nous partageons également la préoccupation relative au système pénitentiaire uruguayen à l'heure actuelle. C'est une situation extrêmement grave, très préoccupante, qui exige de gros efforts de transformation. Il faut passer de grands accords politiques, législatifs pour une transformation du système uruguayen. À 368 personnes en prison pour 100 000 habitants, c'est un des taux les plus élevés, inexplicable par rapport au niveau de développement du pays, inexplicable par rapport au taux de conflit dans le pays. La passion fait que parfois j'accélère un petit peu lorsque je parle. Bon. La densité du système est de 123%. Il y a une surpopulation carcérale critique, plus de 120 personnes pour 100 places. Et dans certains cas, cette surpopulation est particulièrement grave, notamment dans la prison pour femmes, où on est à 143% d'occupation. Il y a des cellules dans certains lieux, notamment dans les zones métropolitaines et dans les prisons de l'intérieur du pays, qui, du fait de cette surcharge et de l'absence ou du manque de ressources, ont des conditions de réinsertion complètement inadéquates, avec des personnes qui parfois vivent à 6, 7, 8 dans des cellules sans possibilité d'accéder régulièrement à la cour. Le taux de croissance de la population carcérale en 2021 a été d'environ 10 à 12% jusqu'il y a quelques mois, puis il a baissé. Le taux d'augmentation de la population pénitentiaire vers la fin de l'année dernière, 2021, était de 6%. À l'heure actuelle, ce taux s'est ralenti un peu, mais il continue d'être à la hausse. On considère qu'il est d'environ 5%. Je parle ici donc du taux de croissance de la population carcérale. Alors que ce rythme est bien supérieur pour les femmes privées de liberté. Notre bureau réalise donc une évaluation des conditions de vie et de réhabilitation. Il est particulièrement important de mentionner que nous avons réalisé un rapport spécial soumis au Parlement sur le concept de traitement cruel, inhumain et dégradant. Cette commission, comme nous le savons, est tout à fait essentielle puisqu'elle assure le suivi du pacte international droits civils et politiques qui prévoit que toute personne privée de liberté doit être traitée avec dignité et que l'idée de la prison, c'est d'assurer un traitement. Alors, je vous enverrai, Madame la Présidente, les documents y afférents. Lorsqu'il n'y a pas de traitement dans un système de ce genre, il n'y a que des traitements cruels, inhumains et dégradants. S'il n'y a pas d'accès à la culture, à l'éducation, à la santé intégrale, s'il n'y a pas des promenades régulières, des activités à l'air libre, de la communication, tout cela a des effets considérables. Cela entraîne une dégradation de la dignité humaine et ne peut que susciter davantage de violence. La situation du système pénitentiaire fait état de 34% de personnes qui n'ont pas accès à des traitements, donc qui vivent dans des conditions de traitement cruel, inhumain, dégradant. 56% des personnes pour lesquelles les conditions ou les possibilités de réinsertion sont insuffisantes et 10% dont les conditions de réinsertion sont bonnes ou pour lesquelles il y a une possibilité de réinsertion ou de réintégration dans la société. Le système pénitentiaire uruguayen n'est pas seulement un problème de droit de l'homme, c'est un problème de santé publique et un problème de sécurité publique. En effet, il y a un fort taux de récidive qui ne peut être abaissé qu'avec une transformation complète du système. J'ai envoyé cela aux autorités, je le verrai également à la commission. Nous avons une proposition, nous avons un plan de lutte contre la récidive en faveur de la réinsertion sur la base de la perspective des droits de l'homme et du genre. C'est un plan qui a été repris par la commission carcérale du Parlement et qui nourrit donc le dialogue constant et constructif que nous avons avec les autorités nationales, en particulier le ministère de l'Intérieur. L'Institut national de la réinsertion et de la réhabilitation, le ministère de l'Intérieur a reconnu publiquement au Parlement que les droits de l'homme étaient enfreints dans les prisons uruguayennes. Nous pensons que cette reconnaissance est tout à fait essentielle et qu'elle permet de jeter un socle constructif pour trouver des solutions à un problème qui remonte à loin et qui, évidemment, est une source de honte pour tous les Uruguayens qui sont traditionnellement engagés vis-à-vis des droits de l'homme. Ce plan que nous avons présenté s'inscrit à nos yeux dans le cadre de la législation y afférente qui prévoit que l'État a pour obligation de mener des réformes pénitentiaires. Pour dire les choses plus simplement, il faut qu'il mette en place un plan stratégique de réforme pénitentiaire à moyen et long terme. Nous dialoguons, comme je le précisais tout à l'heure, avec les autorités sur cette question et nous espérons que nous pourrons mettre en œuvre ce plan et commencer à innover grâce à des mesures alternatives. Nous pourrons mettre ainsi en place un système pour lequel les petits délits ne donneront pas lieu à une privation de liberté et pour les femmes, un système de prison à domicile avec une aide. Beaucoup des femmes privées de liberté, en effet, devraient se trouver dans un système non privatif de liberté. La prise en charge complète de la santé publique ne couvre pas complètement le système pénitentiaire, devrait le faire. La santé mentale, les addictions sont également des sujets importants. Alors là, il y a quelque chose d'encourageant. Le travail du ministère du Développement social avec l'aide du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne le travail post-pénitentiaire, c'est une nouveauté qui a été d'ailleurs reprise en législation grâce à des recommandations en grande partie émanant de notre bureau, mais c'est une décision des autorités qui ouvre d'immenses possibilités de travail en faveur, après la libération. Enfin, pour conclure et répondre à une autre question qui a été posée, je dois préciser que en matière de privation de liberté pendant la pandémie, d'excellentes pratiques ont été mises en place que nous avons applaudies. Le système sanitaire, le système de réhabilitation ont considéré que vacciner les personnes privées de liberté était une priorité. Ils ont été les premiers à être vaccinés. Nous-mêmes, d'ailleurs, au sein du bureau, nous sommes fait vacciner dans des lieux de privation de liberté. Les prisons n'ont pas été fermées, ce qui est une mesure extrêmement positive. Des visites ont été possibles avec des horaires souples en évitant les personnes très âgées et très jeunes. Des dons ont été reçus et, ce qui est plus inédit encore, des dons d'entreprises privées et de syndicats, des articles d'hygiène destinés aux services pénitentiaires pour lutter contre la Covid. Et là, je dois dire que tout cela s'est avéré être une excellente pratique. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup en ce qui concerne les questions relevant des délits commis pendant la dictature. Je vais céder la parole au docteur Juan Pablo Novella, puis à Marina.